Les radios populaires, les radios alternatives, les radios rurales, les radios éducatives, les radios libres, radios communautaires, radios participatives ou radios associatives, on n'en a pas trouvé d'autres, des dénominations différentes mais avec un seul dénominateur commun. Quel est son caractère principal, Claudia ?
Le caractère principal d'une radio, comme on a dit, on a cherché plusieurs dénominations, il y en a sûrement encore. Pour faciliter, on va l'appeler communautaire ou, comment on peut l'appeler ? Communautaire, participative, communautaire ?
Les deux ensemble.
Les deux ensemble. Alors, le caractère principal de ce type de radio est la participation de personnes d'une communauté aux activités de production de la radio. C'est pour cette raison que, surtout en Amérique latine, mais pas seulement, on parle de radio participative. Les auditeurs sont en même temps auditeurs et émetteurs. Les radios communautaires constituent un secteur spécifique des communications à côté de la radio publique et de la radio commerciale. Un secteur dont la présence dans toutes les régions du monde et l'importance pour les populations locales ne font pas de doute. Malgré la nature différente des défis spécifiques auxquels ils doivent faire face au nord et au sud. La radio communautaire se définit donc comme outil de communication indépendant à but non lucratif, à propriété collective, gérée et soutenue par des gens d'une communauté donnée. Un outil de communication et d'animation qui a pour but d'offrir des émissions de qualité répondant aux besoins d'information, de culture, d'éducation, de développement et de divertissement de la communauté dont elle est issue.
Un outil d'expression et de transformation sociale, ces radios sont surtout mises en place dans le cadre d'associations locales pour développer un autre mode d'information et de communication. C'est un vecteur d'expression alternatif qui prône avant tout la diffusion d'informations non relayées par d'autres médias. Elle permet entre autres de donner la parole à ceux qui ne l'auraient ou qui ne l'ont pas ailleurs, ainsi que de promouvoir les artistes locaux. Mais d'où et quand prend ses origines la radio communautaire ?
En regardant un peu dans l'historique de la radio communautaire participative, on ne va pas faire de l'histoire, mais on va donner quelques informations. Donc, dans le sillon de la radio publique et de la radio commerciale sur la bande AM puis sur la bande FM, l'affiliation première des radios communautaires, et un peu partout dans le monde, sont dans des radios éducatives, des radios religieuses ou encore dans les initiatives de communicateurs visionnaires tels que Louis Hill, le créateur des radios pacifiques aux États-Unis dans les années 1940. Cependant, c'est en Bolivie, dans les années 1950, en tant que soutien des mouvements sociaux des mineurs boliviens, que la radio communautaire devient un instrument de changement social et que l'appropriation de la radio par l'auditoire devient une réalité. À cette radio populaire liée au mouvement ouvrier, s'ajoutent les radios dites alternatives aux radios commerciales qui sont encore illégales, entre autres en Colombie, en Équateur, en Nicaragua. Et ces radios sont fortement influencées par les contextes des transformations révolutionnaires ou faisant partie des mouvements révolutionnaires qui animent les masses populaires latino-américaines dans les années 1960 et 1970, mais je dirais encore aujourd'hui, vu ce qui se passe dans le monde, en Amérique latine et pas seulement.
Et puis pour ce qui est de l'Europe et dans les autres pays, quand et comment est née la radio communautaire ?
En Amérique du Nord, comme on l'a cité avant, c'est aux États-Unis que la radio pacifique a fondée par lui ici le 15 avril 1949 à Berkeley, en Californie, fait émerger pour la première fois l'idée d'une radio communautaire guidée par un projet de changement social et se positionnant en faveur de la paix mondiale. En Europe, la mouvance vers le développement des radios libres, communautaires ou populaires devient réalité dans les années 1970 et 1980. Tous les pays d'Europe connaissent alors des expériences des radios communautaires. Entre autres, celles des Radio Popolare en Italie et des Radio Lora en Suisse sont remarquables. En ce sens, ces deux stations ont réussi à marier stabilité financière et mission de communication favorable au changement social. On passe en Afrique. Les mouvements de développement des radios communautaires prennent de l'ampleur dans les années 1990 à la suite de la mise en échec du monopole étatique dans la plupart des pays africains, à commencer par le Mali et l'Afrique du Sud. Ce processus accompagne le développement de la société civile. Libérer la parole paysanne. Tel est le mot d'ordre qui a précédé l'émergence des radios communautaires en Afrique. La mise en pratique de ce mot d'ordre a en effet favorisé la formidable expansion de ce type de radio, tant sont grâce ses apports positifs en faveur des zones défavorisées, surtout les campagnes. Les radios communautaires ont un impact certain en matière de démocratisation de la communication, d'accès à la citoyenneté et au développement. On passe au Népal. Curiosité, moi je ne savais pas. À la suite de l'ouverture démocratique de 1990 soutenue par le roi, le pays devient un exemple d'ouverture des ondes de la, pour la région. Dans des pays assez proches, Thaïlande et Inde, la radio communautaire n'est pas encore reconnue. Donc, de conséquence, ces radios communautaires doivent se disputer les fréquences avec les radios commerciales ou indépendantes et payer les licences très onéreuses, ce qui ne leur permet pas malheureusement de s'épanouir en fonction d'une mission sociale.
Ouais, on vient toujours avec les questions d'argent. Une longue histoire qui continue hein, jusqu'à aujourd'hui. La radio a su s'adapter au changement des temps et des nouvelles technologies et rester un des moyens de communication le plus populaire et le moins cher malgré tout par rapport à la télévision.
Oui, et en Suisse, on peut compter 17 radios libres qui sont membres de l'UNICOM, l'Association suisse des stations de radio à but non lucratif, avec 11 radios communautaires. Radio Django pourrait peut-être un jour s'affilier à cette entité.
C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas, après cette 200e de ce soir. On va passer à présent au plat de résistance de cette émission, en donnant la parole à nos différents invités qui nous font le plaisir d'être là pour discuter de différentes thématiques. On va parler notamment des enjeux, des impacts, des limites de ces questions de radio communautaire, de ces radios ultra-locales, ultra-petites. Mais en tout cas, ce qui les relie toutes, c'est la proximité avec les gens. Tout d'abord, Yann Rioux, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes adjoint au chef de service au service de la culture de la ville de Lausanne. Bashkim Izeni, en face, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué à l'intégration au BLI, le bureau lausannois pour les immigrés. À côté de nous, on a également Omar Odermatt. Bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Tu es coordinateur de projet radio, notamment pour Ebenezer Lausanne. Et on a à côté, c'est un tout petit peu en marge de la radio, Jean-Raoul Schopfer. Bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Alors on va peut-être commencer par toi, puisqu'on te recevait il y a une année précisément. On le rappelle pour ceux qui n'auraient pas encore l'occasion de te connaître, tu es youtubeur lausannois, comme on le dit en bon français actuellement, enseignant également à des heures perdues. Il y a une année, quand on te recevait jour pour jour, il y avait 2700 personnes qui te suivaient. Aujourd'hui, 6500.
Ouais, c'est magnifique.
Ça a doublé, plus de doublé. 1 360 000 vues de tes vidéos cumulées il y a une année. 3 220 000 aujourd'hui.
Ah ouais, ouh là là.
T'as l'air d'être surpris de ces chiffres.
Je ne les connaissais pas.
Définitivement, encore une fois, avec la radio, on ne considère pas forcément les audiences ou la portée de ce qu'on produit.
Oui, c'est vrai. Oui, non.
Pourquoi ? Pour toi ?
Bah parce que, a priori, je ne fais pas ça pour faire du chiffre, on va dire. Voilà. Déjà, je ne le fais pas pour de l'argent, puisque je refuserai toujours de recevoir quoi que ce soit de la part de YouTube pour mes vidéos. Je veux le faire gratuitement, je veux qu'il n'y ait pas de pollution par des publicités pendant les vidéos. Et puis, de temps en temps, oui, je vois le chiffre passer, mais ça... Ce qui me fait plaisir, c'est l'attitude des gens quand je les croise dans la rue, quand je vois les commandes. C'est ça qui me fait plaisir, c'est pas d'avoir fait du chiffre.
Le côté proximité.
Voilà, c'est ça.
Les radios associatives et de proximité ou de communauté, à votre avis, quelle est l'importance et quel est le sens d'en avoir ? Bon, effectivement, on le voit avec toi. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir des médias de proximité ?
Ça me paraît très important pour que les gens puissent se reconnaître. Parce que je me suis posé la question par rapport à mon succès. J'ai l'impression que c'est parce que les gens peuvent se reconnaître, s'identifier à ce que je fais, puisque je suis un habitant du cru, un personnage lambda, qui n'a aucune... Enfin, il n'y avait pas aucune raison que je sois connu de qui que ce soit, à part de mes élèves, hein, ou mes anciens élèves. Mais les gens apprécient qu'on parle d'eux, qu'on parle de la ville où ils habitent, de ce qui s'y passe. Enfin, je ne sais pas, je vois ça comme ça.
Yann Rioux, c'est quelque chose que vous partagez, vous, comme avis ? Parler de ce qui se passe dans son potager ?
Oui, à tel point, je crois que nous vous avions invité, Monsieur Schopfer, avec la fête de la musique, à faire un reportage, une vidéo sur la fête de la musique de Lausanne.
Tout à fait.
Justement pour ce que vous évoquiez, c'est-à-dire le fait d'arriver avec un regard, je dirais, naturel, c'est-à-dire qui est pas du tout sans emphase, avec la façon de se présenter comme un spectateur habituel de la fête de la musique et de la montrer telle que vous la l'aperceviez. Voilà. Et je crois que d'ailleurs, la vidéo a un beau succès sur le site de la Fête de la Musique.
J'en suis très heureux pour vous.
Ça a été une très belle réussite et je trouve que c'était une façon de présenter la fête sous un autre jour, vu finalement par son public.
Oui, c'est ça. C'est aussi amateur. Je n'ai pas de formation professionnelle en cinéma ou je ne sais pas.
Pour vous, Bachkini Zeni, qu'est-ce que vous pensez de ce lien avec la proximité? Est-ce que finalement, au jour d'aujourd'hui, on a trop de radios ou de médias qui sont généraux, qui partent trop loin, qui ne sont plus à parler finalement de ce qui se passe dans son immeuble, dans son quartier?
Oui, en connaissance de cause, j'ai évolué pendant pas mal d'années. J'ai travaillé dans le monde des médias. J'ai fondé une plateforme d'information et de services qui s'appelle albinfo.ch et j'étais producteur de plusieurs émissions. La télé, c'est vrai qu'il y a une crise de ce qu'on appelle de business model dans le monde des médias. Et il se trouve que les médias locaux sont davantage, disons, résistent mieux, disons, à cette ère Internet et à la nécessité de s'adapter dans les prestations qu'elles fournissent à la radio. Mais de manière générale, moi, je trouve extrêmement important d'avoir des médias locaux, des médias aussi idéalement indépendants, même si c'est relative à cette indépendance, elle est relative de n'importe quel média. Mais le fait, la radio, elle a aussi une fonction éducative du fait qu'il n'y a plus, on n'a pas l'image en face, donc on arrive à faire passer des messages par la parole, parce qu'on vit dans un monde d'images, de paraître, et c'est important d'apprendre aux jeunes notamment d'écouter, car malheureusement, j'ai deux enfants, deux ados, et l'image, elle a une influence extrêmement forte. Donc, les radios locales, pour moi, elles ont une importance, je dirais, capitale en tant que rouage de la démocratie à l'échelle locale. Pardon.
Omar Odermatt. Alors, par rapport à la même question, quel est le sens d'avoir des radios alternatives, des radios communautaires à Lausanne, dans notre réalité lausannoise? Toi, que tu fais partie d'un média Voix d'Exil qui œuvre pour les migrants et avec les migrants.
Alors, tout à fait. Alors, Voix d'Exil, la radio est une partie de ces projets. Hein. On collabore depuis 2015 avec Radio Django et on fait chaque mois un sujet. Mais pour répondre plus spécifiquement à cette question, je vais prendre un autre projet qui est plutôt la casquette Ebenezer Lausanne. Hein. Donc, je produis une émission radio avec des personnes en situation de handicap, une émission par année à l'occasion des Journées de la Citoyenneté depuis 3 ans maintenant. Et à travers ce cheminement, donc l'idée c'était d'initier les personnes en situation de handicap à la radio. Je peux faire quelques constats. D'abord, je pense que l'importance d'une radio de proximité locale dans ce contexte d'Ebenezer Lausanne, je pense, c'est d'abord l'accessibilité aux médias. Hein. Peu de personnes en situation de handicap ont accès aux médias, par exemple. Là, tout d'un coup, ils ont un média accessible et en plus, c'est leur média. Et ce qu'on a pu constater, justement, il me disait à plusieurs reprises, mais ce qui est incroyable, c'est que cette radio, l'idée, c'est vraiment de sortir des murs de l'institution. Donc, grâce à la radio, on sort des murs, hein, on s'inclut dans la société, donc il y a vraiment une démarche inclusive. Aussi, le média, évidemment, de proximité permet la rencontre. Moi, je pense que le média, ne serait-ce qu'à travers aussi une expérience comme la Caravane des Quartiers, la radio de la Caravane des Quartiers, l'idée, c'était de permettre aux gens de se rencontrer. Ça participe à l'intégration des quartiers. Après, évidemment, hein, y a la question de la visibilité. Hein, quand une personne est en situation de handicap, on est plutôt invisible, donc on gagne une certaine reconnaissance. Hein, j'existe, je parle à la radio, et on fait de la radio pour les autres, mais aussi on fait parfois de la radio pour soi. Hein, et ça permet aussi de développer plein de compétences qu'on aura sans doute l'occasion de développer.
Radio communautaire, radio de proximité versus ou pas service public, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une complémentarité entre les radios de proximité et communautaire et le service public?
Moi, je ne pense pas qu'il y ait une contradiction, au contraire, ça complète. Mais peut-être pour rebondir juste ce qu'a dit avant Omar, moi je trouve important ces médias, qu'ils soient radiophoniques ou d'une autre nature, c'est de donner la parole, l'espace, justement, à des minorités sociales. Et en l'occurrence, Radio Django a donné la parole à souvent des personnes migrantes. pour ma part aussi, hein, j'étais assez actif sur ce plan. C'était intéressant de faire émerger des acteurs locaux qui ne sont pas forcément connus par les médias mainstream. Donc c'est un bon moyen justement de démocratiser le débat de société en libérant la parole, en facilitant l'accès à la parole, à l'opinion, à des personnes qui n'ont pas toujours droit. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est que les acteurs qu'on allait identifier sur le plan local, notamment des migrants ou des migrantes, étaient ensuite sollicités par les grands médias en Suisse. Donc ce travail de local est extrêmement important pour faciliter aussi le travail d'identification d'acteurs potentiellement intéressants pour les grands médias.
Mais si on vous comprend bien, donc les petits médias de proximité, eux, vont faire le job des gros.
Je dirais pas ça, une complémentarité, je dirais. Parce que c'est pas possible, vous voyez, quand vous êtes un grand média, effectivement, à moins d'avoir des moyens infinis pour aller identifier les personnes. Et les médias locaux ont des réseaux locaux qui fonctionnent bien. Hein. Parfois, les moyens de communication traditionnels fonctionnent pas, alors que le bouche à oreille, les téléphones, les connaissances, les réseaux personnels facilitent justement l'identification des personnes qui pourraient être intéressantes à être sur l'antenne.
Et Dario, dans votre fonction, on le rappelle, adjoint de la service de la culture de la ville de Lausanne, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux services publics et aux radios de proximité communautaires? Est-ce que vous servez de deux médias? Est-ce que vous préférez un l'autre? Quelle
opinion? Ah non, on n'a pas de préférence. Hein. Je crois qu'il y a deux aspects à voir. C'est quels sont les messages que nous, on peut avoir à communiquer à la population. Je pense que c'est important de passer par l'ensemble des canaux. Hein. Quand on a un message à faire passer, effectivement, on peut s'adresser à la presse peut-être la plus populaire, mais c'est aussi important d'aller peut-être toucher aussi peut-être des segments des populations qu'on touchera plus facilement avec un média de proximité. Donc ça, je crois que c'est une chose assez importante. Après, si on revient sur la question de service public, moi, je pense qu'elle est importante d'être posée. Pour moi, le service public, à quoi ça sert? C'est que, à un moment donné, ça doit permettre de répondre à une offre, finalement, à laquelle le privé ne peut pas répondre. C'est la raison d'intervenir, à un moment donné, pour la puissance publique. Et je crois que les radios indépendantes, communautaires, rappelons-les, je pense que le vocable est multiple, elles ont vraiment cette raison d'être aussi de permettre l'accès à une alternative. Encore une fois, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Je vais pas faire le vieux con, mais je suis né avec les radios libres. Enfin, j'ai grandi, j'ai passé mon adolescence avec ce qu'on a appelé les radios libres. Je vivais en France à l'époque. J'ai fait toute mon éducation musicale grâce à une petite radio qui dépendait d'une maison de quartier, qui était la maison de mon quartier, qui s'appelait Fréquence Mutine, pour ne rien dire, et rien que le nom signifie quelque chose, qui m'a fait découvrir tout un pan de la musique indépendante à laquelle je n'avais pas accès dans une famille où la musique n'était pas une priorité, où ne passaient que les grands médias nationaux de l'époque. Ça a été fondamental pour moi, y compris dans les choix de vie que j'ai pu faire. Ça m'a ouvert des portes sur... Bon, la musique était ma passion principale à l'époque, mais aussi sur le théâtre, sur la littérature, sur une littérature alternative. Et c'était des choses qui sont, je crois, vraiment fondamentales. Puis au-delà des contenus, je crois que c'est aussi quelque chose qui a été un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est pas seulement de pouvoir proposer des contenus alternatifs, mais c'est aussi des façons de faire, des façons de présenter les choses de manière alternative. Il y a aujourd'hui dans les médias une façon toujours très très oblique, je trouve, de présenter les faits, peut-être par moment, de leur faire dire des choses, de les amener d'une certaine manière. Je pense que la façon, à un moment donné, simplement de poser un nouveau regard et d'avoir une nouvelle façon de présenter les faits, qui soit non plus imposée par quelques normes que ce soit, mais qui vienne finalement de la population, c'est aussi quelque chose qui permet la réappropriation des faits et de l'information.
Bachki Mizeni, vous voulez réagir à ça?
Oui, effectivement, il y a cette mission de service public, mais c'est vrai que pour les médias, c'est loin d'être évident de gérer maintenant les attentes des auditeurs ou des lecteurs, car il y a un certain type d'attente, une espèce de voyeurisme, je dirais, général, où on cherche des faits de sensation. Et malheureusement, quand on parle de diversité, souvent dans certains médias, la diversité, elle est couverte uniquement avec une perspective négative. Or, ce type de radio, à l'image de Radio Django, justement, permet, tout en parlant des défis que soulève la diversité, montrer les aspects positifs et justement changer la perception de la migration et de la diversité comme une source à problème.
Jean-Raoul Schöpfer.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine forme de liberté? Les radios libres sont certainement plus libres que les radios publiques. Alors, je connais mal le domaine de la radio, mais on sait très bien que dans les télévisions officielles, publiques, en France ou en Suisse, tout doit être calibré. Il y a une certaine forme de censure. Et moi, je pense qu'une radio privée ou, comme vous dites, communautaire, a peut-être plus de liberté pour faire parler les minorités qui veulent s'exprimer.
Oui. Du coup, est-ce que Radio Django a lieu d'être ?
Oui. Alors, oui. Bien sûr.
Pour apporter du contenu, Omar ?
Totalement, au regard de tout ce qui a été dit, c'est donner l'accès, déjà comme j'ai dit aux médias, faire parler des communautés et montrer cette diversité que Bashkim a souligné.
Voilà cette question des raisons d'exister pour les radios de proximité, radio locale, on le retiendra, qui est plutôt à l'unanimité ici autour de cette table, avec une importance et une vraie place dans le tissu médiatique. On continue cette discussion après quelques notes de musique de Ona et lui, qui nous font le plaisir ce soir de jouer pour nous, pour vous, pour le plaisir de nos oreilles, ici à Pôle Sud, pour cette 200e émission. Voici la chanson « Brother ».
Way to go, but I'll follow you to the end of the line. Brother, let me in, will you? I've been dazzled too by this infinite field of ruin, so let me in. Brother, let me in, will you? For my generation's walking and my generation's wandering, you generation's tumbling, and I'll never be the lost. There'll be gold in this harvest is abundant and shiny. Brother, share it all with me. I've been tempted by this deafening rallying cry.
« Brother de Ona et lui, ici en direct de Pôle Sud à Lausanne pour fêter la 200e de ce grand direct de Radio Django. On est toujours avec nos invités Yann Riou, Bashkim Izeni, Omar Odermatt et Jean-Raoul Schopfer pour parler de ces questions de médias de proximité. Claudia.
Oui, on parle de radio de proximité, radio communautaire, outil d'expression de transformation sociale, on l'a dit, un outil pour libérer la parole, médias citoyens. Mais pour vous, invité aujourd'hui à niveau local, vous l'avez déjà un peu dit, mais on va encore approfondir, dans votre travail, quels sont ou seraient, si vous n'utilisez pas, les efforts, l'impact des radios de proximité? Qui veut intervenir?
Bon, le premier problème, c'est celui de la visibilité. Je dois reconnaître qu'avant que vous m'invitiez l'année passée, je ne vous connaissais pas, parce que je ne sais pas, est-ce qu'il n'y avait pas assez de publicité? Bon, je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup la radio. Je suis plus un homme de l'image, l'image qui bouge. Donc, j'aurais plus tendance à regarder la télévision, voir les télés locales. J'aime beaucoup les télés locales. Mais c'est peut-être ça, votre principal problème, c'est d'être de plus en plus connu.
Qu'est-ce qu'il y aurait comme solution, alors ? Bashkim Izeni, vous avez une idée ? Vous partagez l'avis de Jean-Raoul Schopfer ?
Oui, c'est vrai que, mais bon, de manière générale, quand on lance un titre ou un média, ça prend des années jusqu'à ce qu'on fidélise des auditeurs, des lecteurs, ça prend du temps. Ça, c'est un vrai capital hein, que de pouvoir justement avoir des auditeurs fidèles. Et une fois qu'on a mordu, après, ça devient, on crée un besoin, hein, ça devient un besoin, un réflexe. Mais je pense que le problème qui se pose aussi pour les petites médias, des petits médias comme le vôtre, c'est la pérennisation, justement. C'est difficile d'exister, d'assurer un travail, comme dit, un service professionnel avec peu de moyens, bien sûr. Cette radio existe grâce à la bonne volonté, à la niaque de vos membres. Mais effectivement, d'une manière ou d'une autre, la question se pose pour les médias dans la durée. Comment assurer une pérennité, une durée, une relève? Ce problème se pose aussi pour les associations de manière générale. Comment assurer la relève entre première et deuxième génération, ainsi de suite. Donc effectivement, en tout cas, le fait que vous soyez à votre 200e émission, ce n'est pas rien.
Oui, effectivement, c'est pas rien. C'est finalement un travail ou quoi de on doit être persévérant.
Oui, mais le fait qu'un média, souvent, vous avez déjà remarqué dans le paysage audiovisuel roman, il y a eu plusieurs médias qui sont venus, elles ont pas fait long feu, parce que le fait qu'un média arrive effectivement à survivre dans un monde qui est de plus en plus compétitif, c'est extrêmement difficile déjà pour les médias, les principaux médias d'exister, et encore moins évident pour des petits médias, et tout en garantissant, tout en veillant à cette indépendance qui vous vous êtes si cher. Donc, mais le fait que vous puissiez durer aussi longtemps et avoir autant de personnes qui tournent autour, c'est un signe, je dirais, encourageant, et que votre radio a des belles perspectives à venir.
Omar Odermatt, toi qui vois un petit peu aussi avec Ebenezer, est-ce que tu fais le même constat que Bashkim Izeni de persévérance?
Alors, travailler avec des personnes en situation de handicap, ça demande pas mal de persévérance, mais quand on arrive à des résultats, c'est très gratifiant. Et je dirais par rapport à la question de la pérennisation, en fait, une partie de la réponse se trouve dans les objectifs qu'on se pose. C'est sûr que si on se pose un objectif d'une émission par jour ou une émission par mois, je pense que c'est plus ou moins gérable en termes de pérennisation. Et aussi, on peut dire que parfois, la contrainte, elle est créatrice. Hein. Des fois, quand on a des obstacles, on doit faire tourner son imagination. Et là, on trouve des solutions intéressantes et innovantes. Ensuite, par rapport à quoi sert l'activité, dans mes activités à Ebenezer, dans le concret, je dirais qu'il y a quelque part, certes, la radio est importante, hein, elle permet de porter des voix, aussi à voix d'exil, hein, on porte la voix des personnes migrantes, on porte la voix des personnes en situation de handicap, hein, mais à quelque part, le média est dans ce cas-là aussi parfois presque un prétexte, c'est un petit peu gonflé de dire ça, mais un prétexte parce que c'est un prétexte à la rencontre, hein, grâce aux médias, grâce à la radio, on peut rencontrer des gens, c'est un prétexte aussi à la formation, développer plein de compétences, hein, que ce soit Voix d'Exil ou à Ebenezer Lausanne, les gens qui participent au projet radio, ben, je vois la différence dans le développement de compétences, gérer la pression du direct, avoir un invité en face de soi, ne pas lui parler dans sa langue maternelle, structurer sa pensée, voilà, c'est plein de belles compétences qu'on peut acquérir et surtout gagner de la confiance en soi. Et là, je vois vraiment de la différence auprès des personnes qui ont fait de la radio.
Et en quoi cette forme de radio devient un outil au service de la communauté ou des communautés, Yann Rio, à votre avis?
Une question qui se pose de plus en plus, y compris dans les politiques culturelles, c'est effectivement celle de la participation de la population à la vie culturelle d'une manière ou d'une autre. On se rend compte qu'effectivement, très souvent, la culture, elle est portée par l'institution qui va chercher, dans le cadre d'une politique de démocratisation, à faire partager son point de vue sur ce qu'est la création contemporaine au plus grand nombre. La question aujourd'hui, elle est un petit peu en train de se renverser aussi. C'est comment faire à un moment donné que les contenus qui seront développés ou posés, partagés par les institutions, puissent aussi venir de la population, y compris, je dirais, dans sa composante plurielle. Et c'est une question qui va au-delà de la culture, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on doit pouvoir mieux inclure aussi la culture dont les gens qui sont venus s'installer ici sont porteurs, afin de la partager avec nous. C'est aussi ce chemin-là que la culture doit faire, je dirais, des populations vers l'institution. C'est vrai qu'on en est loin, on doit encore trouver aussi des modes de faire, mais je pense que les radios communautaires, dans ce sens-là, elles ont un rôle à jouer, parce qu'elles amplifient des phénomènes culturels, des pratiques culturelles, dont on n'a pas nécessairement connaissance, nous, quand on travaille dans l'institution.
Dans quelle mesure cet outil, du coup, favorise le vivre ensemble et l'inclusion des autres? Comment est-ce que vous le voyez concrètement, vous, Yann Rio?
Ben, déjà, je crois, on y revient, moi j'y reviens toujours un petit peu sur cette question de l'alternative. Je crois que c'est important, à un moment donné, de si je prends l'exemple de la presse, hein, de manière générale, aujourd'hui, on sait qu'à Lausanne, on a une offre culturelle pléthorique, et je m'en réjouis, mais on a plus beaucoup de médias aujourd'hui pour relayer ce qui est toute cette offre. Et puis à un moment donné, on va voir que sur une semaine, il y a un ou deux spectacles qui ont été repérés par la presse écrite à grand tirage qui font leur travail, ça je le reconnais très volontiers, mais bien sûr ne peuvent pas tout couvrir. À un moment donné, il y a d'autres expressions qui doivent pouvoir trouver un canal de diffusion, qui doivent se faire connaître, et je pense que pour le vivre ensemble, c'est important que l'ensemble des expressions culturelles puissent trouver leur public. Et je pense que la voix de ces radios permet à un moment donné à certaines offres de trouver leur chemin vers leur public.
La radio a démontré aussi une capacité de s'adapter tout au long des années aux évolutions technologiques qu'on a citées avant la télévision, mais la radio c'est vraiment un exemple d'outil qui continue à se renouveler et puis à pouvoir aussi, disons, plus simplicité entre guillemets technologique, et c'est ça à votre avis qui fait la force des radios de proximité, communautaires, podcasts aussi, Omar Odermatt?
Capacité de s'adapter, oui. Alors effectivement, on pourrait croire qu'aujourd'hui, à l'heure du tout visuel, de la vraisemblance de l'image, la radio n'aurait aucun avenir. Et je pense que c'est pas du tout vrai. On voit qu'il y a un grand boom des podcasts. Hein. Les podcasts sont de plus en plus importants. La technologie est aussi de plus en plus accessible. Je pense que la radio a un bel avenir parce que c'est un média assez unique qui... dans sa texture, parce que j'expérimente plusieurs textures de médias, dans sa texture, elle sollicite beaucoup l'imagination et elle donne vraiment une accessibilité simple, en fait, à la parole. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans mon cas, à Voix d'Exil, écrire un article, mon collègue Afif Ghanmi, qui est à côté, qui coordonne le programme Vaudois avec moi, ne me contestera pas. C'est un projet. Écrire un article, c'est un projet avec des personnes qui ne maîtrisent pas la langue. Leur passer un micro, alors, il faut avoir des bribes quand même de français, mais c'est beaucoup plus accessible en termes de production de contenu, et je pense qu'il y a moins de contraintes et plus de... Ça sollicite plus de la créativité, en fait. Et aussi l'expérimentation de plein de formats différents. Une émission, on peut en faire à l'infini, hein, des formats d'émissions, tandis qu'un article, c'est un peu plus verrouillé, disons.
Bachimizini.
Oui. Oui, la frontière entre vraiment radio, image devient de plus en plus floue. Hein, on le voit dans les grands médias, notamment, je pense à la radio suisse romande, où l'image, en fait, il y a la radio, mais en même temps, il y a donc une diffusion d'image en direct. Donc, je pense qu'il faut, pour des radios locales comme la vôtre, c'est important d'être réceptif, attentif au changement et vraiment de prendre les bonnes décisions au bon moment pour assurer, pour aller dans ce sens de cette pérennité. Parce qu'au fond, si vous êtes là, c'est qu'il y avait un besoin. Si vous existez, c'est qu'il y a des lecteurs, des auditeurs qui avaient envie effectivement de vous suivre. Mais je pense qu'il faut effectivement s'adapter à son temps et pas forcément mettre les pieds au mur contre les bienfaits des technologies nouvelles qui facilitent énormément justement l'accès à un outil comme la radio et qui facilite aussi, qui devient de beaucoup plus un moyen démocratique pour amener du bon contenu sur la toile, parce qu'il y a un sérieux problème maintenant, y compris des personnes complètement détestables ont une influence sur la toile, et je pense que c'est important d'avoir des radios comme le vôtre pour véhiculer des messages de paix, de cohabitation, et bien sûr des messages éducatifs et surtout favoriser la voix des minorités sociales.
Mais tout le monde peut publier, que ce soit de la radio, de la vidéo, sur les réseaux sociaux, sur le net. On va crouler sous les informations, sous des fausses informations peut-être. On a pléthore de choix.
Oui, mais si je peux permettre d'intervenir, c'est là que la question du direct pour moi est importante, et c'est là, je crois, l'un des grands avantages de la radio, qu'elle ne doit pas perdre de vue, enfin de la radio ou d'une certaine télévision, qu'elle ne doit pas perdre de vue par rapport justement au podcast ou au programme à la carte, etc. C'est le moment de vivre un échange qui peut être contradictoire. Et c'est en ça que c'est important. Et je pense que le direct, c'est quelque chose de fondamental. Parce qu'il permet la contradiction, il permet l'échange, il permet la correction en temps direct si jamais quelque chose n'est pas juste. Puis au-delà de cette dimension-là, moi, j'ai le souvenir d'avoir, quand j'étais gamin, j'écoutais souvent la radio le soir au lit, mais c'était une façon de partager avec d'autres gens. Le direct permettait de ne pas être seul. C'est bête, mais on peut être seul dans sa chambre à écouter son petit poste de radio, mais à savoir qu'on partage un contenu avec des dizaines, des centaines, voire des centaines de milliers de personnes quand on écoute des grandes radios. Et il y a un lien social qui se fait, y compris dans la solitude de l'écoute. Et ça, je pense, la radio ne doit pas le perdre.
Bachki Mizeni, je vous vois opiner du chef.
Oui, en fait, pour rebondir dans ce que Yann disait, effectivement, tu as exprimé un mot magique, contradiction. C'est ça, souvent, en fait, des médias communautaires, des médias qui défendent des causes. Hein. Souvent, parfois, l'arbre leur cache la forêt et ne crée pas les conditions cadres pour avoir des vraies contradictions dans un débat. C'est ça la sérénité d'un débat, c'est de pouvoir justement créer un espace pour que ceux qui ne pensent pas comme nous puissent aussi exprimer leur opinion. C'est la quintessence même d'un média libre et indépendant. Et c'est ainsi qu'on gagne aussi une notoriété, une réputation auprès des auditeurs qui ont aussi besoin d'avoir souvent les deux sons de cloche autour d'une thématique. Et parfois, c'est un des pièges, c'est justement dans ces médias qui se veulent candides, militants ou autres, on oublie peut-être ceux qui pensent comme nous. Et c'est important de ne pas les perdre de vue.
Jean-Raoul Schopfer.
Oui, je pense que j'ai l'impression que la grande supériorité de la radio sur les autres médias comme la télévision ou même YouTube, c'est qu'elle travaille sur le son. Et le son, il passe par l'oreille, et il va directement dans l'oreille interne et il attaque les sentiments, en fait, l'affectif. Alors que le visuel attaque pas l'affectif, il passe d'abord par le cerveau. Donc, on peut faire l'expérience de regarder une émission de télévision et puis de plus la regarder, mais d'écouter que le son, on le sentira très différemment. Et un deuxième élément, c'est que la radio, vous pouvez l'écouter en faisant autre chose. Alors, bien sûr, si vous faites vraiment autre chose, vous ne serez pas concentré de la même façon, mais vous pouvez l'écouter en voiture, en conduisant. Une ménagère peut l'écouter en faisant la vaisselle. Alors que la télévision, vous êtes obligé d'être devant votre poste.
Yann Rioux, vous réagissez.
Moi, je voulais juste dire un ménager aussi. Parce que...
Ah, ménager, oui, oui.
Les ménagers...
Je suis féministe. Hein.
Selon vous, brièvement, quel format est-ce qu'il faudrait choisir pour que le média fasse écho et touche certains publics très spécifiques ? Bashkimizina.
Ça, l'imagination. Il faut peut-être aussi s'ouvrir à la diversité linguistique. Il y a pas mal de des réfugiés, des migrants qui parlent, qui maîtrisent pas forcément le français. Ça serait intéressant de créer des fenêtres, justement, d'expression, des langues non francophones. C'est une manière aussi de donner une chance à des professionnels qui, malheureusement, n'en ont pas toujours la chance de maîtriser le français tout de suite, en tout cas pour des réfugiés. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes réfugiées, des professionnels, des médias qui peuvent vraiment apporter énormément à des radios comme la vôtre. Bien sûr, le socle commun, c'est le français, mais créer des fenêtres ou des langues différentes peuvent justement s'exprimer, ça peut être quelque chose qui ça serait un vrai atout pour une radio comme la vôtre.
Bon, c'est vrai que Lausanne, on est gâté, on a beaucoup de langues étrangères, il y a une diversité énorme. C'est un point de vue que vous partagez, Yann Rio, aussi sur le côté multilingue.
Oui, absolument. Je crois que, de manière générale, la participation aide beaucoup. Je pense que la radio l'a fait, d'ailleurs, autour des spectacles. Hein. Je ne sais plus comment est-ce que s'appelait le programme, mais ce dispositif par Culture Radio, voilà, je cherchais le nom, qui donnait la parole à des personnes. Ils disaient, voilà, vous avez vu un spectacle, qu'est-ce que vous en avez pensé? Décrivez-le avec vos mots, avec ce que vous avez ressenti, ce que vous n'avez pas ressenti. Mais je trouvais que cette participation, elle était importante, et elle peut l'être aussi, je pense, pour les communautés linguistiques. Je pense que le fait de faire permet aussi, à un moment donné, d'apprendre. Et je pense que ça peut être un des rôles que peut jouer la radio.
Yann Rio, Bashkim Izeni, Omar Odormat et Jean-Raoul Schopfer, vous restez avec nous et vous allez pouvoir vous retourner pour regarder, parce que nous on les voit, on a de la chance ici, vous l'entendez à la maison, Ona et lui, notre duo de ce soir, qui nous interprète en direct Landscapes.
Run.
Merci.
Landscape, c'est le titre de cette chanson de Ona et lui qui est ici pour accompagner musicalement cette 200e du grand direct de Radio Django, une émission à écouter sur radio.django.fm et que vous pourrez évidemment réécouter en intégralité sur notre site django.fm. Claudia, on continue ce débat avec une question sur les limites.
Exactement, on a parlé des avantages de radio communautaire à proximité, on a commencé à évoquer quelques limites. L'organisation de ces radios reste toujours fragile pour des questions financières, pour des questions de bénévolat. Elles sont en permanence confrontées à une fragilité structurelle qui peut remettre en question leur mode de fonctionnement. La pérennité est très difficile, voire aussi leur existence. Quel est votre avis, Bashkimezi Izani?
Oui, c'est un problème inné à un média, mais aussi à une association. Une association est née, elle se développe, elle cesse, et puis il y en a d'autres. Il y en a qui continuent, mais où, de génération en génération, les missions d'une association évoluent aussi. Aussi, les missions d'une radio comme la vôtre peut-être doivent évoluer tout en intégrant l'environnement qui est pas mal changeant. Dans le monde des médias, je crois que là, il faut vraiment, je le répète, je n'aime pas cet aspect paternaliste pour donner des conseils, mais je parle aussi en toute connaissance de cause, ayant dirigé un média pendant 10 ans, un média minoritaire, c'était loin d'être évident de survivre, de permettre vraiment de produire un contenu de qualité et d'avoir des lecteurs en face. Du moment qu'on arrive, il ne faut pas exister pour exister, il faut vraiment que votre existence, votre épanouissement, votre soit vraiment en phase avec les besoins de ceux qui vous écoutent. Et là, bien sûr, il faut être aussi agile et être au taquet pour prendre des virages s'il faut les prendre au bon moment et surtout investir dans les générations futures pour assurer une relève. Donc ça fait beaucoup de choses, beaucoup de défis, mais c'est inné aussi à cette structure, des structures associatives bénévoles comme la vôtre.
Est-ce qu'avoir des auditeurs et auditrices, c'est le seul, disons, objectif pour les radios? S'il y a d'autres raisons qui font, voilà, on a des auditeurs et auditrices, mais si on a des problèmes structurels, comme financiers, bénévoles, comment peut survivre une radio communautaire ou alternative? Par exemple, Omar Odermatt, que tu es dans le cœur de médias alternatifs. Vous êtes écouté, mais...
Alors souvent, je pense dans les médias alternatifs, on se soucie pas suffisamment de la question du public parfois. Finalement, on est un peu dans un mouvement où on fait et on se dit ben voilà, notre mission c'est de faire et faire et faire et faire, et on a parfois un peu de la peine à prendre du recul. De temps en temps, on arrive à trouver une petite fenêtre, on se dit ah, ça serait bien de faire une petite étude sur le public de Voix d'Exil, chose qu'on a faite assez tardivement, hein, il y a une année. On se rend compte qu'il y a un public plutôt international, on voit l'influence des réseaux sociaux, ça marche, mais je dirais que voilà, les limites, c'est évidemment des limites en termes de ressources. Hein. Voix d'Exil, animer un média intercantonal avec 3 rédactions à 50%, c'est un défi, hein, depuis 9 ans. Garder le cap de la qualité, parce que c'est pas parce qu'on est un média avec peu de ressources qu'on doit pas faire de l'information de qualité, mais faire de la qualité, ça demande de la ressource, hein, des compétences, et en plus vous avez du personnel tournant, parce que c'est un média, un programme d'intégration, donc vos journalistes, vous les formez, mais une fois qu'ils sont formés, c'est un tremplin, ils sont remplacés, vous devez reformer les gens. Mais malgré tout ça, je pense que l'épuisement est évité souvent parce qu'il y a toujours un peu la cause, hein, donc la flamme qui vous maintient et vous dites non mais ça a un sens. Et je pense que c'est ça en fait le propre de ces médias alternatifs peut-être par rapport à certains médias mainstream, c'est quel est le sens de la démarche. On se pose souvent, on le voit dans nos pratiques, on voit l'influence du média sur nous, et même si souvent un média naît et un jour il meurt, hein, malheureusement, il faut se dire que le média SM, hein, aussi. Et parfois, une pratique s'éteint à quelque part, mais elle ressurgit ailleurs. Et c'est ça le propre du média, c'est d'essaimer.
On parle de flamme qui fait vivre, tu as parlé de flamme qui fait vivre ces radios communautaires de proximité. Je pense aussi à des pays comme Amérique latine ou Afrique où vraiment la liberté de communication est une urgence, chose que peut-être en Suisse, en Europe, est moins urgente à l'apparence. Est-ce que c'est là, ce peut-être manque apparent d'urgence et une des raisons des difficultés à faire vivre des radios associatives communautaires où vraiment on a besoin de cette flamme qui habite les personnes qui font la radio. Yario.
Je ne pense pas qu'on ait moins besoin de flamme. Ici, je pense qu'il y en a, il y a beaucoup de gens qui, en font, qui l'ont dans tous les domaines. Moi, si je prends le domaine qui me préoccupe tous les jours, celui de la culture, je peux vous dire que la flamme, ils sont très nombreux à l'avoir parce que c'est jamais évident de tenir. Ça, c'est très juste. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir une activité? Bachkim le disait tout à l'heure, il faut une belle énergie, il faut des convictions. Et je ne crois pas qu'il y a un manque de conviction ici à Lausanne. Je ne crois pas qu'on ait moins besoin de ces convictions. On l'a dit, on est aussi une ville qui accueille beaucoup de monde, une ville internationale. Je pense qu'il y a des enjeux qui frappent une bonne partie de la population de plein fouet avec une urgence quotidienne. Un film lausannois s'est encore fait récemment l'écho, effectivement, de la situation des demandeurs d'asile à Lausanne. Il y a des situations qui, y compris chez nous, sont des situations d'urgence et qui appellent effectivement des prises de parole pour lesquelles il faut un engagement certain.
Quelle serait cette urgence de prise de parole? Mais je pose la question peut-être à Bachkim Izeni, que vous êtes dans le milieu de la migration, mais aussi aux autres personnes autour de la table. Quelles sont cette urgence dont on a besoin de parler dans ces médias alternatifs?
Mais je pense que les médias alternatifs sont une espèce de garde-fou pour essayer justement de freiner aussi cette façon traditionnelle de couvrir les médias, les thématiques de la migration sous l'aspect de problèmes, de sources à problèmes. C'est important de prendre le contre-pied et montrer, tout en rappelant les problèmes, que la migration est un apport considérable pour la prospérité de la Suisse, mais aussi la Suisse est aussi une terre d'accueil pour plein de migrants qui n'ont pas trouvé leur bonheur dans leur pays d'origine ou ont dû quitter leur pays d'origine pour des raisons diverses. Donc montrer que la migration, malgré son lot de défis, mais aussi est aussi un apport réciproquement, la Suisse aussi elle a permis de déployer des ailes à plein de migrants et de réfugiés. Je connais plein qui ont eu des conditions extrêmement difficiles à leur arrivée en Suisse. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une évolution extraordinaire. Donc, sans être naïf, je pense que ce rôle-là, justement, cette urgence, c'est aussi de freiner, de stopper, de voir la migration uniquement ou de voir la migration comme une source d'insécurité, comme une source à problème. Mais essayer de montrer que la migration, elle a un rôle historique et la Suisse est un terreau, est une terre de migration, une terre, une creusée de populations qui ont fini par embrasser ce pays, par s'immerger complètement culturellement de génération en génération, et ce sédiment qu'est la diversité est peut-être l'ADN même de la Suisse.
Jean-Raoul Schöpfer.
L'être humain a peur de ce qui est différent et de ce qui est intrusif par rapport à lui. Alors moi, je peux reconnaître que j'étais comme ça, mais je travaille depuis quelques années dans une école qui accueille les migrants. Et pour moi, c'était les plus belles années de ma vie, c'est ces dernières années où j'ai travaillé avec ces gens, parce que je les ai rencontrés. Et justement, je pense qu'alors c'est là le grand œuvre que vous pouvez faire, c'est de permettre aux gens de rencontrer, via l'intermédiaire de la radio, bien sûr, ces gens, et de comprendre effectivement qui ils sont. Leur richesse.
Et bien sûr, pardon, vous n'avez pas terminé. En fait, il faut effectivement parler de la diversité, mais il ne faut pas avoir peur de parler des problèmes aussi que suscite la diversité, avec une sérénité. Ouais. Et c'est tout l'avantage des médias comme les vôtres.
J'aimerais bien revenir aussi sur la question initiale de ces radios sont importantes, mais elles ont une réalité de fragilité structurelle. Malheureusement, la question des finances reste le top de ce qu'est rencontré. Alors, comment penser au mieux le mode de financement ou quelles seraient les solutions à cette fragilité structurelle? Bashkimizimi.
Je parle d'expérience, non pas avec ma casquette de délégué.
Tenez-nous des bons conseils.
Oui, il faut diversifier les ressources, effectivement, vraiment s'adapter. Il faut plus penser, le business model, j'aime pas ce mot, mais c'est une réalité, uniquement par une source, mais diversifier les sources, adapter, disons, des programmes par rapport à des besoins, sans vendre son âme. Hein, c'est tout un équilibre. C'est une alchimie difficile. C'est une quête permanente, justement, d'un équilibre entre besoin de fonctionner, comme un média professionnel, avoir des ressources. C'est un pays cher, ça coûte cher, tout coûte cher en Suisse. Il faut avoir des ressources, mais en même temps, il faut effectivement négocier au cas par cas et adapter des prestations, des émissions par rapport à des publics cibles, tout en cherchant des partenaires qui vous soutiennent. Et on est quand même dans un pays où il y a le mécénat, la philanthropie, elle est très forte. Donc là, il faut aussi effectivement convaincre des partenaires, notamment en persévérant. Et là, je rejoins complètement Omar sur la qualité. Et elle doit être non négociable.
Bon, alors, qui dit des questions de financement, un modèle de base qui est relativement simple et abordable par tout le monde, c'est le bénévolat, le côté associatif et bénévole. Il y a certaines limites aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Yann Rioud, du bénévolat ?
De manière générale, il est fondamental. Je me permets de vous renvoyer à l'étude sur la musique que le service de la culture a commandité il y a 2 ans, puis qui a été rendue publique juste avant l'été, qui faisait ce constat que la richesse musicale de Lausanne la doit en grande partie au travail bénévole qui est fourni dans les différentes institutions, notamment quand on pense aux institutions dans le domaine des musiques actuelles. Sans ce bénévolat, il n'y aurait pas la moitié de la culture qu'il y a à Lausanne. Donc c'est un apport fondamental. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Omar aussi tout à l'heure par rapport au fait que ça SM. Et je crois que le bénévolat, c'est aussi une formidable école. L'autre jour, j'ai pris la parole pour le 15e anniversaire du Romandie, voisin. C'est incroyable de voir ce que sont devenus aussi les gens qui sont passés par le Romandie. Beaucoup, pour eux, ça a été l'entrée vers des métiers, vers des carrières maintenant. Ça a été extrêmement formateur. C'est une richesse sur laquelle, je pense, il faut continuer à s'appuyer. Et ça veut dire aussi que pour continuer à exister, il faut être capable de se renouveler, de renouveler ses équipes. C'est pas toujours facile. Quand à un moment il y a une crise des vocations, c'est peut-être pas bon signe pour l'institution ou pour le projet, mais c'est extrêmement important et ça permet aussi, je trouve, de rester connecté avec les réalités émergentes. C'est-à-dire que quand on fait de la place à de nouvelles personnes dans un projet, on fait aussi place à de nouvelles cultures ou à des formes émergentes. Ça permet aussi de rester toujours en contact avec la réalité.
Bashkimizini, rester en contact avec la réalité.
Absolument, et puis développer des partenariats. Moi, je pense notamment à Lausanne, il y a un tissu associatif extraordinaire, il y a tellement d'associations, par exemple les nombres d'associations migrantes qui sont actives. Là, c'est des partenaires potentiels, mais aussi des ressources pour un média, pour pouvoir justement, tout en continuant à être fidèle à la mission initiale, pouvoir aussi faire assurer des entrées pour pouvoir faire tourner, amener l'huile nécessaire à la machine. Sinon, effectivement, elle sera vite grippée. On ne peut pas compter ad aeternam sur le bénévolat. Il faut combiner bénévolat et des ressources régulières, je dirais.
Omar Odermatt.
Oui, alors je pense que le partenariat, comme vient de le souligner Bashkim, c'est fondamental. C'est complètement la politique de Voie d'Exil, par exemple notre politique de pérennisation, c'est créer des partenaires, parce que quand vous avez des partenaires, vous créez un tissu, et quand vous avez ce tissu, ben, vous êtes plus solide. Et je pense que les partenaires, c'est souvent réciproque, hein, le bénéfice, hein, entre guillemets, de ce soutien mutuel. Je prends l'exemple, ne serait-ce qu'avec Radio Django, ben, Radio Django, on apporte un contenu, et en même temps, Radio Django nous offre une infrastructure qui nous permet d'exprimer ce contenu avec des compétences qu'on n'a pas. Donc voilà, c'est vraiment un bénéfice mutuel qui permet de créer des projets originaux et de grandir. Et juste pour revenir sur le bénévolat, c'est vrai que le bénévolat, il est très structurant, hein, aussi dans ma trajectoire professionnelle, ma vie actuelle. Moi, je pense que si je n'avais pas eu certaines expériences de bénévole associative, ben, je serais très différent aujourd'hui. Et c'est un gain, une richesse d'expérience énorme. Et je pense que ces bénévoles, ben, il faut vraiment faire en sorte qu'ils gardent le plaisir d'être bénévoles. Donc, il faut vraiment les choyer, prendre soin d'eux, parce qu'ils sont là pour une cause et voilà, au moins qu'ils puissent puissent vraiment s'épanouir dans ce qu'ils font.
Pachkine Izeni, vous me disiez en préparant cette émission qu'il y a ce lien d'amalgame qui est un petit peu fait à l'origine en disant la qualité, quand c'est bénévole, la qualité elle n'est pas là, ce n'est pas des professionnels. Finalement, est-ce que c'est une vue de l'esprit ou c'est quand même une réalité ?
C'est difficile de répondre, mais en tout cas, je sais que, ayant pour ma part dirigé un média migrant, on avait du contenu de qualité, mais c'était extrêmement difficile de convaincre des partenaires institutionnels ou des firmes qui sont très en vogue de nous soutenir, même si implicitement elles disaient oui, mais officieusement, mais officiellement. Parce que la diversité, elle n'est pas toujours vue de manière positive, je dirais. Et là-dessus, il y a effectivement une question de label, essayer de soigner son image, montrer son sérieux, être responsable. Tout ça sont pour des gages pour essayer effectivement de convaincre et bien sûr montrer qu'on peut être tout aussi bon, si ce n'est peut-être pas meilleur, avec un média local, bénévole, qu'un média peut-être qui bénéficie de soutien privé ou public conséquent. Donc je pense là tout dépend aussi de la formation, de la relève qu'on fait, mais avant tout, bien sûr, il faut que cette niaque, cette envie de faire, quoi, persiste.
Jean-Raoul Schöpfer.
Après, les bénévoles, il faut savoir qu'ils existent, mais ils ne vont pas forcément se manifester. Il faut les appeler, il faut accepter qu'ils puissent donner peut-être que très peu de leur temps. Mais c'est déjà ça. C'est important, je trouve, ça. Moi, je suis à plein temps, je travaille à plein temps, je ne peux pas offrir un bénévolat énorme, je pourrais.
Mais ce que vous faites pour votre carrière, c'est bénévole. Ah, c'est dans le temps libre.
Oui, exactement, on peut dire ça comme ça.
Mais c'est important, le bénévolat est important, est extrêmement important, mais il faut quand même qu'il y ait des professionnels au cœur du fonctionnement d'un média. Parce qu'il faut qu'ils aient un cahier de charge, oui. Et où la structure qui dirige ou la structure stratégique puisse demander des comptes, fixer des objectifs, tracer une map, comme une feuille de route qu'il faut suivre et vraiment exiger la qualité. Donc là-dessus, c'est un savant équilibre entre bénévolat, une structure communautaire comme Radio Django, et aussi quand même des ressources pour pouvoir rémunérer des professionnels afin d'exiger un travail de qualité.
Yann Rioux,
juste un mot pour dire. Pour conclure. Effectivement, je pense que le bénévolat, c'est aussi un échange. C'est-à-dire qu'on donne de son temps, effectivement, parce qu'on croit en un projet, mais aussi, je pense, parce qu'on sait que de cette expérience, comme le disait Omar, on va retirer quelque chose. Et le fait de travailler au contact de professionnels, quand on est bénévole, c'est le gage d'un apprentissage aussi. Et oui. C'est pour ça que je pense que c'est important effectivement, comme le disait Bashkim, que les professionnels soient présents dans les projets bénévoles.
Jean-Raoul Schöpfer.
Parce que ce que vous appelez professionnel, c'est quelqu'un qui a les compétences et qui reçoit le salaire, c'est ça ?
Voilà, et qui est du métier, effectivement, c'est un métier, hein. Le journalisme est un métier.
Parce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'on passe contrat aussi avec un bénévole. Vous laissiez entendre qu'on passait le contrat qu'avec les professionnels, mais on peut aussi passer contrat avec un bénévole pour qu'il fournisse un travail de qualité.
Tout à fait, mais il y a toute la question de la durée. Ouais, le bénévolat, du jour au lendemain, vous pouvez être vraiment complètement, si la personne a des compétences que vous ne pouvez pas remplacer, c'est autre chose quand vous avez un poste avec un cahier de charge qui est défini, où la personne, vous pouvez recruter quelqu'un d'autre, voilà, quelqu'un en le rémunérant, un bénévole s'il part, tout le capital, le savoir-faire part avec, et ça c'est vraiment embêtant, quoi.
Eh bien, voilà ce qu'on pouvait discuter avec vous, nos invités, ce soir sur ces questions d'impact, d'effets, d'enjeux, de limites des radios associatives, des médias de proximité, des médias bénévoles. Yann Rioux, merci beaucoup de nous avoir accordé une partie de votre soirée aujourd'hui.
Plaisir, merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes adjoint au chef de service au service de la culture de la ville de Lausanne. Bashkim Izeni, délégué à l'intégration du BLI, le bureau lausannois pour les immigrés. Une bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Omar Odermatt, coordinateur de projet radio à Ebenezer Lausanne, et Jean-Raoul Schöpfer, enseignant et personnage public sur YouTube pour l'image. Merci beaucoup à vous quatre.
Merci Fabien.
Et un tout grand merci à Claudia qui a préparé de main de maître, de professionnel d'ailleurs, je le souligne, ce débat ce soir ici sur Radio Django pour discuter au cœur de cette 200e du Grand Direct.